Bonjour à tous, durant cet été, RMJ vous propose quelques rediffusions des émissions produites par Claude Perronnet. Voici donc la rediffusion d'une des chroniques 2020-2021 des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Bel été à tous, bonne écoute et à très bientôt.
Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée aujourd'hui Fernand Fourreau, un enfant de Saint-Barban, au lac Tchad et à la Martinique. Ce sera notre 261e émission et notre 173e chronique. Pour les textes, nous avons fait appel à des extraits d'ouvrages de Fernand Fourreau lui-même, « Mission chez les Touaregs »,« D'Alger au Congo par le lac Tchad », un article de Jean-François Julien, « Fernand Fourreau, le Limousin du Sahara », l'illustration de septembre 1900, à propos de la mission Fourreau-Lamy, et surtout un article de Jean Collasson de Saint-Barban à Lubangui dans le bulletin 2008 de la maisonnée de la commune d'Adrier.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Les auditeurs de ma génération se souviennent, j'en suis certain, de l'histoire de l'éventail du dé d'Alger que nous apprenions à l'école. Je vais vous la résumer. Dans les années 1790, la France avait acheté du blé pour l'armée française auprès de deux marchands juifs d'Alger. Mais la France ne se pressait pas pour les payer. Les deux marchands avaient eux-mêmes des dettes auprès du dé d'Alger, le souverain de la province d'Alger, et les deux marchands prétendaient qu'ils ne pourraient payer le dé que lorsque la France aurait payé elle-même le blé fourni à l'armée française. Des négociations débutent entre le dé d'Alger et le consul de France, c'est alors François Deval. Ces négociations vont tourner vinaigre, les Français refusant toujours de payer le blé fourni en 1820. Le dé, dans un geste d'irritation, va frapper le consul de Val avec un chasse-mouche. La France, en représailles, nous sommes alors sous Charles X, en 1827, décide du blocus du port d'Alger. Le dé tire alors des canons contre l'un des navires du blocus et le 14 juin 1830, 34 000 soldats français débarquent en Algérie et entrent dans Alger. L'Algérie sera proclamée française en août 1881.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Quelques années avant, en 1876, un jeune aventurier avait débarqué en terre africaine et s'était installé dans la province de Constantine, à 300 km au sud-est d'Alger. Il s'associe à un homme d'affaires nommé Faux, mais sur pied, une société dont le but est de réaliser des forages de puits afin de créer des oasis et d'y planter des palmiers dattiers. Les travaux vont s'échelonner jusqu'en 1888. Ce sera un très grand succès économique. Les palmiers donneront alors en plein rapport 40 kilos de dattes par pied. Ce jeune aventurier décidera ensuite d'aller à la découverte d'autres horizons, algériens ou marocains, et aussi dans tout le Maghreb. Il a des projets plein la tête. Ce jeune aventurier s'appelle Fernand Fourreau et il est natif de Saint-Barban en Haute-Vienne.
Thank you.
Fernand Fourreau est né le 17 octobre 1850 à Bernis, une ferme et un château à l'est du hameau du Puy-Catelin dans la commune de Saint-Barban. Son père est un gros propriétaire terrien, un de ses oncles est avocat, un autre, sous-préfet de Bellac, deviendra d'ailleurs député. Du château de Bernis, qui était en fait une grosse demeure bourgeoise, il ne reste rien. D'ailleurs, les Fourreaux avaient acheté un autre logis à Frodières. Après le baccalauréat, Fernand Fourreau s'inscrit à l'école centrale, mais nous sommes en 1870, c'est la guerre avec l'Allemagne. Il s'engage pour 5 ans dans la marine nationale, mais il ne naviguera pas, car il sera fait prisonnier. Libéré en janvier 1871, il se lance dans l'étude de la géographie, de la géologie, de l'hydrographie et de la botanique et fait la connaissance de l'explorateur Louis Say, qui devient son ami. Dès lors, Fernand Fourreau n'a plus qu'un rêve, l'Afrique du Nord et particulièrement l'Algérie. Et nous l'avons vu, en 1888, il est dans la région de Constantine où il développe l'irrigation des palmeraies.
Et grandes histoires de la basse marche.
Bien sûr, notre explorateur ne peut rester à Constantine. Le gouverneur général civil d'Algérie va lui confier d'importantes missions. Il va d'abord travailler sur un projet des plus utopiques que l'on abandonnera plus tard, la possibilité de relier le désert à l'océan et de créer une mer intérieure saharienne. Fernand Fourreau accomplira alors jusqu'en 1898 9 missions dans la zone saharienne. Avec une petite équipe, il accumule les remarques relevant les itinéraires. Il note 512 observations astronomiques, rapporte des échantillons géologiques, photographie les végétaux inconnus en France, décrit les dessins rupestres préhistoriques, etc., etc. Après chaque équipé, il vient se ressourcer à Saint-Barban, à Frodières, où il plantera d'ailleurs un jeune cèdre provenant du Maroc. Il participe aussi au projet d'une grande ligne de chemin de fer qui pourrait relier l'Algérie au Pays Noir et dont l'aboutissement devait être le lac Tchad. La mission était commandée par le lieutenant-colonel Flatters. Elle s'engagea sans connaissance du terrain, sans documents géographiques, sans souci des différentes peuplades qu'elle allait rencontrer. Lors d'affrontements, Flatters sera tué. Une deuxième troupe sera presque entièrement massacrée et seuls 11 hommes purent revenir. Et encore, durent-ils se livrer à des actes de cannibalisme pour survivre. C'est un échec. Mais les désirs de domination et l'espérance d'augmenter les capitaux ne s'effacent pas si vite. En 1898, on reprend l'aventure. Le ministre des colonies, André Lebon, lance 3 missions devant rejoindre le lac Tchad. Fernand Fourreau est sollicité pour traverser le Sahara du nord au sud. Son parcours part donc du sud algérien, longe le Hoggar par l'est, descend jusqu'à Agadez et de là, par un cheminement en direction du sud-est, doit gagner le Tchad, puis le Congo et Brazzaville. 5000 kilomètres, dont plus de 2500 de désert. Son escorte de 150 hommes est dirigée par le commandant Lamy et pour se transporter, on utilise 1200 chameaux.
petites et grandes histoires de la basse marche.
La traversée du désert est terrible. Voici ce qu'écrit Fernand Fourreau. L'uniformité effrayante de cette région inhospitalière. Pas un brin d'herbe, du gravier, du sable, des blocs de pierre, c'est tout. Ah, j'oubliais, les ossements de chameaux qui gisent un peu partout. Quelquefois aussi on rencontre un tas de grosses pierres que des mains humaines ont évidemment disposées. C'est la tombe d'un targhi. Ossements de chameaux et tombe de Touareg sont les jalons de la route. Les Touaregs, bien sûr, défendent leur territoire et les attaques sont nombreuses. Alors nous allons sauter bien des étapes. Le 21 janvier 1900, la mission était partie le 23 octobre 1898. Donc le 21 janvier 1900, Fourreau et l'ami, à travers des vols d'oiseaux innombrables, découvrent ce qui ressemble à une mer, presque aussi vaste que notre Bretagne. Fourreau et l'ami y sont enfin. C'est le lac Tchad. On attend les deux autres missions qui doivent également atteindre le lac Tchad. Elles ne sont pas encore arrivées. Une des missions a été quasi décimée. La jonction avec celle des mille gentils venus du Congo se fera le 22 avril 1900. Mais ce sera ensuite la bataille de Kousri contre Rabat. Rabat, c'est le seigneur de la guerre du Soudan, au cours de laquelle l'ami trouvera la mort. Fernand Fourreau a triomphé du Sahara. Il rejoint ensuite Marseille, puis Paris, où il est accueilli en héros. Quant au projet de voie ferrée à l'origine de cette expédition, que devint-il ? Fernand Fourreau en fit bien l'étude, mais comme le projet ne paraissait pas rentable, on décida finalement de l'abandonner. Fernand Fourreau a alors 50 ans. Il revient à Saint-Barban, où il épouse Aline Mulot en janvier 1901. Mais, vous vous en doutez, Fernand Fourreau ne peut rester tranquillement au fin fond de la province. On lui propose de devenir gouverneur des Comores dans l'océan Indien, et bien sûr, il accepte.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
L'archipel est composé de 4 îles, dont 3 sont sous protectorat. La quatrième, Mayotte, est en colonie. Ces îles ont comme particularité d'être occupées par une population diversifiée, de différentes origines, mais de confessions très largement musulmanes. L'unité religieuse n'interdit pas pour autant les problèmes de cohabitation et la communauté en proie à des tiraillements autant intérieurs qu'extérieurs devient difficile à gérer. Ces problèmes permettent de comprendre pourquoi les autorités politiques ont choisi Fourreau, qui a su montrer ses capacités d'approche, de discernement et de mesure. De plus, il a l'expérience de la mentalité musulmane et il parle arabe. Il accepte le poste et débarque à Mayotte en 1906 en qualité de gouverneur de première classe. Fourreau est un scientifique et ne connaît rien des exigences et des arcanes de l'administration. Mais il a le désir et la volonté de servir et se forme sur le tas. Il en ressort que l'homme de contact et de raison apaise les différends entre les communautés antagonistes et tout rentre dans l'ordre. La valeur de son intervention est vite reconnue et après seulement 2 années de gestion en 1908, une dépêche émanant du ministère des colonies lui demande de bien vouloir prendre alors le gouvernement de la Martinique. En réalité, ce poste n'est offert qu'à titre intérimaire et est-il précisé, ne doit durer que quelques temps.
Maman, la grève pas des moins. Maman, la grève pas des moins. Maman, la grève pas des moins. Monsieur Michel, pas des bails de fond. Maman, la grève pas des moins. Maman, la grève pas des moins. Maman, la grève pas des moins. Monsieur Michel, pas des bails de fond. Ouais, Monsieur Michel, pas des bails de fond.
Voici donc Fernand Fourreau à la Martinique. La Martinique n'est pas encore un département français, seulement une colonie. Et la population vit très mal une tutelle qu'elle juge humiliante. Les républicains considèrent que l'action du gouverneur en place, portée ouvertement au soutien des puissances financières du lieu, est contraire aux intérêts de l'île. De graves troubles ont éclaté, le gouverneur est rappelé. Fourreau accepte donc la proposition gouvernementale. À la Martinique, que sait-on du personnage Fourreau ? Que c'est un conciliateur et un républicain. C'est, semble-t-il, suffisant dans l'immédiat, et à cause du climat sociopolitique particulièrement difficile, il est adopté tant par les républicains qui ont confiance en lui que par les notables locaux qui espèrent un retour à l'ordre. Ce double horizon de bienveillance s'assombrira bientôt, du moins pour ce qui concerne ses relations avec le monde des affaires. Fourreau, bien qu'issu de la bourgeoisie terrienne, reste d'abord bas-marchois, c'est-à-dire limousin, de cette terre qui, depuis le Second Empire, voit se développer des revendications ouvrières. Il est connu pour avoir, dans sa jeunesse et au long de ses études, reçu des influences républicaines et franc-maçonne. Fourreau découvre que la main-d'œuvre dans les plantations ou dans les ateliers est surexploitée et que le travail ne profite qu'à quelques familles sans permettre le plus maigre développement économique de la Martinique. Le retard culturel d'un limousin qu'il connaît bien lui permet de comprendre celui de la colonie. Sa formation et son origine paysanne, même s'il est un propriétaire non exploitant, l'ont marqué. Considérant que la terre peut être une richesse, si elle produit pour tous, il entreprend le développement de l'agriculture et se heurte aux possédants. Ses relations difficiles avec un certain milieu social font qu'il se rapproche des républicains et même des socialistes. Le gouvernement reconnaît que son action a ramené le calme et que son œuvre est positive. Le gouverneur en titre, mais en disponibilité, ne reviendra pas à Fort-de-France, et Fourreau est nommé officiellement gouverneur le 21 mai 1907. Malgré les résistances et les incompréhensions, et même les antagonismes, lorsqu'ils sont possibles, Fourreau poursuit son activité que d'aucuns ont comparée, au moins pour le sérieux et la volonté, aux entreprises d'un Turgot. Malheureusement, Fourreau n'ira pas jusqu'au bout du chemin. De graves problèmes de santé dus à sa vie africaine, il est atteint de paludisme chronique, lui font obligation de revenir à la métropole, ce qui ne peut déplaire aux forces politico-financières de la colonie. Il quitte Fort-de-France le 9 janvier 1913, dans la plus grande discrétion. Seul, les fonctionnaires de l'île lui font escorte pour saluer son départ et marquer leur reconnaissance.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici donc Fernand Fourreau de retour en métropole. Après la Martinique, il était prévu qu'il fût nommé trésorier général en Côte d'Ivoire. Mais trop fatigué pour repartir, le Parlement lui votait une pension à vie de 12 000 francs par an, en plus de sa grande médaille d'or des explorations et voyages de découverte qui lui fut décernée en 1901 pour honorer sa mission. Fourreau était titulaire de 3 autres prix de la Société géographique. Ajoutons qu'en plus de ses marques de reconnaissance, il avait été élevé à la dignité de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur. La pension qui lui fut accordée ne devait pas ruiner l'État. Fernand Fourreau y eut droit 15 jours avant de mourir, à Paris, dans le 17e arrondissement, en son domicile, 24 place des Batignolles, loin de Saint-Barban, à 12h30, le 17 janvier 1914. Fourreau fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à peu près au centre de la 94e division. Le monument est simple, il est en béton granito, composé d'une stèle et d'une dalle garnie en son centre d'un décor de feuillages et de fleurs. La stèle porte comme inscription Fernand Fourreau, 1850-1914, explorateur, chef de la mission saharienne de 1898 à 1900. Rien d'autre ne la distingue particulièrement. La Martinique ne l'a quand même pas oublié. Deux chansons locales en son honneur rappellent son passage là-bas, ce qui prouve qu'il ne déplaisait pas à tout le monde. Et une rue de Fort-de-France, dans le quartier de Terre-Saint-Ville, rappelle le nom du gouverneur Fourreau. À Paris, la rue Courteline, dans le 12e arrondissement, fut débaptisée et se nomme aujourd'hui Fernand Fourreau. Accompagné de celui de l'ami, il s'inscrit également dans une rue d'Alger, mais la petite ville à qui l'on avait donné le nom de Fort Fourreau a repris dans l'actuelle République du Tchad le vieux nom de Koussouri. Sa terre natale, enfin, avec la présence de l'amiral Lacaze, ancien ministre, lui rendit hommage le 13 août 1933.
Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous Chiméa.
Martinique, levez, levez debout, couvrez Chiméa.
Histoire-nous, c'est nous qui camachez. Histoire-nous, c'est face vous enfants, nous.
Martinique, levez, levez debout, couvrez Chiméa.
Histoire-nous, c'est nous qui camachez. Histoire-nous, c'est face vous enfants, nous.
Martinique, levez, levez debout, couvrez Chiméa.
Oui, je nous donne qui calé.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche consacrée à un enfant de Saint-Barban, Fernand Fourreau, sous le titre « Fernand Fourreau de Saint-Barban au lac Tchad et à la Martinique ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Fernand Fourreau lui-même, de Jean-François Julien et de Jean Colasson. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, Réveil FM, les musiques du Maroc, le groupe folklorique de Tamanrasset, African Folk, le ballet exotique de la Martinique. Le violoniste Jean-François Christ, le mandoloniste Azoil Strigidai, la chanteuse Ouria Aichi et le music Bo Kyle et son groupe qui nous interprète en ce moment Martinique Levé. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Kikampois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.